Viens, Esprit Créateur, sur chacun d'entre nous, viens nous recréer comme les apôtres sur lesquels Jésus a soufflé pour leur donner la force du témoignage, la force d'accueillir la parole et de la vivre pleinement pour former l'Église avec la Vierge Marie au milieu d'eux. Viens, Esprit, sur chacun d'entre nous, nous rejoindre chacun. Nous sommes différents les uns des autres. Nous sommes chacun uniques, chacun une richesse ineffable est dans notre cœur. Nous sommes chacun une richesse ineffable puisque nous sommes créés tous par Dieu. Et Dieu a voulu que chacun d'entre nous existe pour nous communiquer son amour et son Esprit Saint. Viens nous rejoindre, Esprit Saint, parce que nous sommes blessés aussi et que nous mettons des obstacles, même sans nous en apercevoir, entre Dieu et nous. Viens nous permettre de nous ouvrir pleinement à la grâce de Jésus. De l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 27. Tandis que Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit sévèrement « Attention que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Alors cette courte histoire, on voit bien que Matthieu a résumé énormément ce qui a dû se passer. Il ne nous donne que les éléments essentiels. Il y a Jésus qui est en train de marcher, probablement qu'il y a ses apôtres, il y a peut-être même une foule, mais ça, il ne le dit pas, mais on peut le supposer. Et puis, il y a deux aveugles qui le suivent. Donc, ils le suivent sans voir Jésus. Ils entendent peut-être la foule ou ils entendent les apôtres. Enfin, ils suivent au son de la voix, certainement. En criant, « Aie pitié de nous, fils de David !» Voilà, donc Jésus est en train de marcher, imaginons la scène, ses apôtres, quelques disciples, et puis il y a deux personnes aveugles qui les suivent derrière en criant, en répétant, sans cesse, « Aie pitié de nous, fils de David !» Peut-être qu'ils cassent un peu les oreilles aux apôtres, mais bref, ils sont là, ils veulent vraiment obtenir cette guérison, mais vous voyez que leur prière est très simple. C'est « Aie pitié de nous, fils de David !» Pourquoi « fils de David » Parce que ça veut dire que Jésus, s'il est le fils de David, il est le Messie annoncé par les prophètes, c'est-à-dire qu'il est le sauveur d'Israël, le sauveur du monde, celui qui a reçu l'onction divine. Donc, le fils de David, ça veut dire le Messie, celui qui vient nous sauver. Ils font un acte de foi. Ils savent que Jésus a le pouvoir de les guérir. Ils leur demandent, ils demandent à Jésus d'avoir pitié d'eux, simplement. Guérir pour le Seigneur, c'est nous guérir, c'est avoir pitié de nous, de nos souffrances, de nos faiblesses. Et ils essaient d'ouvrir le cœur de Jésus en lui demandant cette pitié pour eux-mêmes. Et chacun d'entre nous, nous savons que nous avons besoin que le Seigneur, que Dieu se tourne vers lui, se tourne vers nous, qu'il ait pitié de chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas malades, mais nous sommes pécheurs. Nous avons aussi besoin de sa miséricorde. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne leur répond pas tout de suite. On a l'impression qu'il ne les entend pas. Il continue à marcher, peut-être qu'il discute avec autre chose, avec les apôtres. Puis il y a les autres derrière qui crient « Pitié de nous, fils de David ». Mais comme si Jésus n'entendait pas. Ben, ça arrive aussi, on crie vers le Seigneur et il fait comme s'il ne nous entendait pas. On a l'impression qu'il ne nous entend pas. Il ne nous répond pas. Il y en a qui viennent à la prière des malades et ils ont l'impression qu'il n'y a pas de parole pour eux, pas de réponse, pas de, etc. On peut être déçu. Ils auraient pu se dire, bon, ben, il ne nous entend pas. Ben, ok, tant pis pour lui, tant pis pour nous. Enfin, bref, ils ne le suivent plus. Donc, on voit qu'ils le suivent un certain temps sans que Jésus leur adresse la parole. Et quelque part, le Seigneur, parfois, met à l'épreuve, les personnes qui lui demandent des choses. Parfois, il entend tout de suite, puis parfois, il fait comme s'il n'entendait pas. Et il oblige ces personnes à faire un chemin de foi. En suivant Jésus, ces aveugles, c'est comme un chemin de foi qu'ils sont en train de faire. D'autant plus qu'ils ne voient pas Jésus et ils le suivent au son de la voix. Ça me rappelle quelqu'un qui justement était aveugle et qui me disait qu'il évangélisait dans la rue. Et la personne qui l'évangélise pour lui annoncer le Christ lui dit « Mais tu m'annonces que Dieu est vivant, que le Christ est venu, etc. Bon, mais moi, Dieu, je n'ai jamais vu, donc je ne peux pas y croire. » Et la personne aveugle lui répond « Mais tu vois, moi, je ne te vois pas, mais je crois quand même que tu existes. » Voilà. Donc, il y a une certaine analogie entre le fait d'être aveugle et de ne pas voir quelqu'un d'autre. On croit pourtant qu'il y a des personnes autour de nous, pourtant on ne les voit pas. Et Dieu qu'on ne voit pas, et en lequel nous croyons. Alors ces aveugles continuent à suivre Jésus sans se décourager et ils arrivent à la maison. C'est intéressant parce que dans l'évangile, la maison, c'est une symbolique qui symbolise l'église. Jésus les conduit vers l'église, sans parole. Et alors là, les aveugles se décident à aborder Jésus, avant qu'on ferme la porte, peut-être, j'en sais rien. Ils veulent vraiment obtenir leur guérison, dont jusqu'à présent, ils étaient patients, ils étaient derrière, mais là, ils pressent un peu plus. Et ils se mettent auprès de lui. Et alors, le Seigneur leur pose cette question qu'il pose régulièrement, pas tout le temps, ça dépend des récits de guérison, il ne fait pas toujours pareil. « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Il met leur foi à l'épreuve, comme si le fait qu'ils aient cheminé derrière lui en criant « Fils de David, aie pitié de nous » ne suffisait pas. Il met encore, une dernière fois, leur foi à l'épreuve. « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Et si je peux, ça veut dire aussi « je peux parce que je suis tout-puissant », donc ça veut dire une reconnaissance que la toute-puissance de Dieu est en moi, Jésus. Mais aussi, ça veut dire aussi que j'ai aussi l'envie de le faire, que je peux le faire pour vous, j'en ai aussi le désir. Alors, ils répondent, ben oui Seigneur, voilà, c'est très simple. Et à ce moment-là, il leur touche les yeux et il dit que tout se fasse selon votre foi. Autrement dit, on a l'impression que ce n'est pas Jésus qui les guérit, mais c'est la foi de ces aveugles qui leur a permis de guérir. Bon. En fait, c'est bien Jésus qui les guérit, mais la foi de ces aveugles leur permet d'accueillir pour eux la puissance du Christ qui agit. Rappelez-vous à Nazareth, là où les gens ont vu Jésus grandir, ils n'imaginent pas que Jésus puisse avoir la puissance de Dieu en lui, puisqu'ils l'ont vu tout petit. Ils l'ont vu à 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc nous on le connaît, Jésus, il n'a pas la puissance de Dieu en lui, c'est un gamin comme tout le monde qui est devenu un homme. Voilà. Mais en fait, ceux de Nazareth croyaient connaître Jésus, ils ne le connaissaient pas. Et ces aveugles le connaissent peut-être moins apparemment que ces gens de Nazareth, ceux qui ont vécu avec Jésus, mais eux, ils savent qu'il a ce pouvoir divin en lui parce qu'il est le Fils de Dieu qui s'est incarné. Et Jésus les touche. C'est important ce toucher. Alors, il n'y a pas toujours le toucher dans la guérison, là encore, à la prière des malades, le Seigneur vient au milieu de nous et ne nous touche pas forcément physiquement. Mais on a aussi besoin de rejoindre Dieu par nos sens. C'est pour ça que Jésus s'est incarné. C'est pour que Dieu puisse se laisser toucher, qu'il puisse nous toucher. C'est pour ça que dans les sacrements, bien, il y a des signes qui sont donnés. Dans le baptême, on verse de l'eau. Dans l'Eucharistie, on mange le pain qui est le corps du Christ. Voilà. Et puis parfois, on peut demander aussi aux prêtres de prier pour nous en nous imposant les mains. Et puis vous pouvez aussi prier les uns pour les autres. Le soir, les parents peuvent bénir leurs enfants en leur imposant les mains. Nous avons tous ce pouvoir, si nous le faisons dans le Seigneur, de prier les uns pour les autres en tant que baptisés. Alors, que tout se fasse selon votre foi, oui, mais il y en a qui ont la foi qui ne guérissent pas. Ça ne veut pas dire que, voilà, quand Jésus dit que tout se fasse selon votre foi, là, je veux que vous guérissiez, puis selon votre foi. Mais il ne faut pas en conclure que si on ne guérit pas, c'est parce qu'on n'a pas la foi, c'est possible. Mais il y a des gens qui ont une très grande foi et qui ne guérissent pas parce que Jésus leur demande de continuer à vivre ce chemin d'offrande avec lui de leur souffrance. Mais ça, on ne peut pas savoir ce que Jésus veut sur nous. Bon. En attendant de guérir, on peut lui offrir nos souffrances parce que lui-même a accepté d'offrir ses propres souffrances au Père sur la croix et faire de ses souffrances un instrument de salut pour le monde parce que nos souffrances offertes ont aussi un poids pour sauver les autres. Voilà. Donc il ne faudrait pas être trop rapide en disant « si tu ne guéris pas, c'est que tu n'as pas la foi ». Ça, c'est n'importe quoi. On ne peut pas savoir. Dieu seul sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Voilà. Et ensuite, donc, leurs yeux s'ouvrent. Là, on voit la puissance du Christ. Ce que Dieu fait, comme dans Genèse chapitre 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Jésus dit quelque chose, cela se réalise. C'est le signe qu'il est Dieu, sa parole est toute puissante. Mais ensuite, il leur dit de ne le dire à personne. Alors, ça peut paraître surprenant. Pourquoi Jésus ne veut pas que ces aveugles témoignent de leur guérison ? Parce que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment de témoigner, parce que s'il témoigne trop du pouvoir du Christ, d'abord il va y avoir une foule trop énorme autour de lui et ça va empêcher Jésus d'agir, de cheminer. Et puis deuxièmement, au fur et à mesure où Jésus va faire des guérisons, les autorités religieuses et politiques vont avoir peur de lui parce qu'elles vont voir les choses au plan de la puissance et dire « Ouh là là, il y a un homme qui peut guérir, c'est très très dangereux ça parce qu'il est capable » d'être en quelque sorte une forme de gourou ou d'homme qui va rassembler tout le monde et ça devenir une puissance dangereuse, il va nous menacer. D'accord ? et pour les autorités juives, il y a aussi le fait que Jésus montre qu'il est le Fils de Dieu et ils ne veulent pas reconnaître que Dieu puisse s'incarner, que Jésus est le Messie. Voilà. Mais Jésus n'a aucune ambition politique sur cette terre et tous ceux qui vont s'opposer à lui se trompent sur ses intentions. Le Seigneur est là pour nous donner le ciel, pour nous donner l'amour du ciel. D'ailleurs, vous marquerez dans les évangiles que Jésus ne fait jamais de miracle pour se défendre lui-même, jamais. Quand il est arrêté, il se laisse arrêter comme s'il était impuissant. Il ne fait jamais de miracle pour se défendre lui-même. Il le fait uniquement pour guérir les autres. Voilà. Et les aveugles, à peine sortis, une fois guéris, n'obéissent pas à Jésus, ce qui montre qu'on peut être guéri et en même temps, ben, ça ne veut pas dire que notre vie a changé complètement. Ils ne sont pas complètement convertis. Certes, ils parlent de Jésus parce que leur cœur est rempli du Seigneur, ils ont envie d'en parler, mais ils n'obéissent pas vraiment à l'Esprit Saint. Ils sont quand même indisciplinés. Ils n'obéissent pas vraiment à la voix de l'Esprit en eux. Alors maintenant, aujourd'hui, après la Pentecôte, le Seigneur nous demande au contraire de témoigner à travers des guérisons qu'il opère pour montrer qu'il est toujours présent au milieu de nous. Voilà. Alors maintenant, justement, je vais demander à René de venir pour qu'on puisse écouter son témoignage.
Bonsoir à tous.
Alors, c'est René qui a rédigé le texte que je vais vous lire, puis ensuite elle vous dira peut-être un mot, mais elle était trop émue pour vous parler en direct. Donc je vais lire son texte et ensuite son témoignage. Et puis ensuite, René vous dira un petit mot si elle n'est pas trop émue. Voilà. Donc au cours de l'été 2014, j'ai commencé à avoir des pertes d'audition à l'oreille gauche, accompagnées de nausées et de bruits très forts dans la tête qui survenaient la nuit. Je retrouvais progressivement l'audition durant la journée suivante, mais les crises m'épuisaient et le repos nocturne devenait source d'angoisse. Donc vous comprenez là que René était dans une situation quand même très très douloureuse, sachant que les choses s'accroissaient progressivement. Le problème grandissait progressivement. Le médecin ORL m'envoya à Paris pour passer un examen IRM qui ne détecta aucune anomalie anatomique et suggérait un trouble fonctionnel type maladie de Meniere. En regagnant le métro après l'examen, je m'arrêtais à la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours et en regardant les ex-voto près de l'icône, je déposais tous mes soucis, dont ce problème de santé. Quelques jours plus tard, je trouvais dans une revue un entrefilet sur le DVD « Dieu nous guérit », donc c'est le DVD de la prière des malades, et je décidais de venir à l'église Saint-Nicolas-des-Champs pour voir. J'ai ainsi assisté pour la première fois à la prière des malades le 18 décembre 2014, debout au fond de l'église, derrière un pilier, parce que quand on vient la première fois, on ne sait pas qu'il y a du monde, donc on pense qu'on va avoir tout de suite une place assise. Il y a peut-être d'autres qui sont dans cette situation. Mais ce n'est pas parce qu'on est debout, derrière un pilier, que le Seigneur ne s'occupe pas de nous. Donc debout au fond de l'église, derrière un pilier. Inutile de vous dire que je ne voyais rien et ne comprenais pas trop ce qui se passait. Mais l'un des témoignages ce soir-là, celui de Sophie, que je remercie, m'interpella, car il reportait la guérison d'un trouble assez semblable au mien. Un peu plus tard, au cours de la prière, une parole de connaissance annonça qu'une personne impressionnée par le témoignage était guérie d'une maladie de Meniere, lui provoquant des pertes de l'audition à l'oreille gauche. Elle met entre parenthèses, le texte était à peu près celui-ci, mais pas forcément exactement. Je me suis dit, mais c'est moi, tout en étant très étonné à la fois de l'annonce et de sa précision. Depuis ce soir-là, je n'ai plus eu aucune crise et me considère comme guéri par la grâce de notre Seigneur, qu'il soit infiniment loué. Amen, Seigneur Jésus. Voilà, donc c'était le 18 décembre 2014, donc maintenant elle est sûre d'être complètement guérie, il n'y a eu aucun traitement de fait, et la guérison a été immédiate, alors qu'il y avait un accroissement dans les crises. Alors René, est-ce que tu as la force de nous dire quelque chose?
Chères sœurs, chers frères, je vous souhaite de tout cœur la guérison et la joie de rencontrer le Seigneur au travers de cette prière, dès ce soir, ou les jours qui viennent. et je vous exhorte à vous confier à Marie, qui nous conduit vers son Fils pour nous ouvrir au Père.
Merci beaucoup, René. Voilà, René elle-même est passée par la Vierge Marie, parce qu'elle s'est arrêtée à la basilique de Notre-Dame du Perpétuel Secours, et c'est Marie qui l'a conduit à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci Seigneur. Alors je vais donner rapidement quelques autres témoignages de guérison qui se sont déroulés au cours de cette prière ou grâce à l'intercession de cette prière. Donc il y a Maria qui depuis longtemps avait un problème de brûlure dans sa vessie lorsqu'elle faisait des mictions, et suite à une parole de connaissance, tout cela s'est arrêté. Merci Seigneur. Il y a une famille entière qui était venue prier pour leur fille religieuse en Grèce, chez les filles de la charité. Et leur fille était allongée depuis 4 mois environ, sans aucune force. Elle n'arrivait pas à s'en remettre. Elle était complètement dépourvue de toute force, de toute énergie. Et bien, après cette prière, il se trouve que cette fille a repris des forces et qu'elle a retrouvé sa pleine santé. Merci Seigneur Jésus. Voilà, un autre témoignage qui nous montre aussi que le Seigneur ne guérit pas uniquement directement, mais aussi à travers les médecins. Vous savez que Paul VI disait que les médecins sont des instruments de Dieu. Donc Marie-Suzy est venue prier pour sa maman âgée qui était opérée au ventre. L'opération a duré 6 heures. Et après l'opération, le chirurgien a dit à sa maman, « Madame, je ne sais pas ce qui s'est passé. Durant l'opération, je me suis sentie guidée intérieurement. » L'opération était très compliquée car vous êtes très âgé, et il a pleuré, lui le médecin, il a pleuré devant cette femme qui venait d'opérer, devant la grâce qu'il a sentie lui-même pendant cette opération d'être guidé mystérieusement malgré la complexité de cette opération. Et maintenant sa maman, Marie-Suzy, se porte bien. Vous voyez que le Seigneur, on peut aussi le prier pour guider la main des médecins et des chirurgiens pour que tout se passe bien. Voilà, merci Seigneur pour ces grâces que tu nous accordes.